Votre radio, Bugey Radio.
C'est à moi.
Et voilà, donc, c'est à Sandrine.
Oui, comme je te le disais tout à l'heure, tu te souviens, la dernière fois, on avait eu quelques questions auxquelles on n'avait peut-être pas complètement répondu. Donc, je voulais revenir un petit peu dessus. Est-ce que tu te souviens, Olivier, de la question de Marine qui disait « Quand je discute avec des mamans que je ne connais pas, j'ai tendance à être bavarde et en dire trop alors que je suis timide et réservée. »
Mais trop, et moi, c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Est-ce que c'est trop dans le sens où elle envenime un petit peu les choses ou est-ce que c'est trop, elle dit trop de choses sur elle?
Alors ça, on ne sait pas.
Parce que elle ne nous l'a pas précisé.
Voilà, c'est la, c'est la limite des questions en direct où on n'a pas forcément le temps de creuser. Donc, je vais faire un certain nombre d'hypothèses et puis on va voir. Il y avait une question de Corinne aussi qui allait avec cette question-là, qui disait, moi, il m'arrive un peu la même chose, mais dans les rapports de séduction où j'ai peur des blancs et je me mets à parler à tort et à travers. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, derrière tous nos comportements, il y a généralement une émotion qui les motive. Dans ce genre de situation, on peut supposer qu'a priori, c'est plutôt de la peur. Ce qui me paraît très intéressant, c'est de se dire, tiens, c'est quoi le risque que je prends dans cette situation?
Oui, c'est ça.
Parce que ça veut dire que Marine, par exemple, si d'un seul coup, elle se met à parler beaucoup, ça veut dire que si elle ne parlait pas, si elle se montrait telle qu'elle est, enfin telle qu'elle pense être, en tout cas, timide et réservée, elle prendrait un risque alors, peut-être?
Oui, mais lequel dans ce cas-là? Enfin, je ne sais pas, moi. C'est...
Du coup, ça, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans sa tête. C'est elle qui pourrait nous le dire. Ce que je peux supposer par rapport au genre de situation qu'il a rencontré, c'est que souvent, on se dit, mais si je ne parle pas, si je ne fais qu'écouter...
On paraît plutôt timide et réservé. Et c'est pas très agréable pour tout le monde, des fois aussi.
C'est possible. Ou alors on pense que les gens nous jugent mal et ça on ne sait pas. Donc il y a probablement ça, c'est-à-dire est-ce que je suis prête à me montrer telle que je suis et est-ce que telle que je suis, je pense que je peux être intéressante pour les autres.
Mais je pense que cette émotion, c'est plutôt la peur dans ce cas-là.
Oui, c'est ça.
Hein, tu vois, j'ai retenu, hein.
Bien,
donc t'es
Olivier.
Une bonne formatrice, quoi.
C'est bien, Olivier. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle avait précisé après, Marine, un petit peu après, elle disait, oui, avec les personnes que je connais bien, en fait, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que je dis pas plus que ce que je voudrais.
Elle gère normalement, parce qu'elle sait que ça se passe bien, certainement, avec ces personnes, non?
Et probablement qu'elle a le sentiment qu'avec les personnes qu'elle connaît bien, elle est acceptée telle qu'elle est.
Voilà.
Tu vois?
C'est ça.
Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, par rapport à Corinne aussi, dans les rapports de séduction, il y a probablement aussi des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire, si je me présente telle que je suis, je vais peut-être pas être intéressante, je vais peut-être pas plaire, et je prends le risque que les gens ne s'intéressent pas à moi.
Voilà, automatiquement.
Oui, et du coup, j'ai des comportements... qui vont à l'inverse, c'est-à-dire puisque je pense que les gens timides et réservés n'intéressent pas les autres, je me mets à parler, pas forcément volontairement, mais à dire plein de trucs.
Oui.
Et du coup, parfois, je peux avoir l'effet inverse.
Et c'est bien là le problème. C'est clair.
Mais je pense que sincèrement, il ne pourra y avoir de changement si toutefois il y a un changement à produire, parce que peut-être c'est aussi une façon de gérer les situations, que si Corinne et Marine se sentent prêtes à affronter le fait qu'elles vont laisser des blancs, ne pas parler, et que les gens peuvent mal réagir et ne pas s'intéresser à elles. Il y a un truc que j'ai pas dit la dernière fois justement à propos de ça.
Alors ?
Parce que j'avais gardé des choses secrètes. D'accord. Exprès. Non, pas exprès. Ce que j'avais pas dit, c'est qu'au niveau du cerveau, neurologiquement parlant, biologiquement parlant, on observe avec les neurosciences que faire quelque chose et s'imaginer le faire, c'est quasiment la même chose.
D'accord.
C'est-à-dire que si tu t'imagines en train de vivre une situation, mais en essayant d'être vraiment très précis, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais ressentir les choses et tout ça, ton cerveau, il a l'impression que tu l'as fait vraiment, quasiment.
D'accord, oui.
Ça change très peu de choses au niveau des circuits de ton cerveau. Donc du coup, ça peut être aussi un bon exercice de s'imaginer dans une situation où on est en train d'être avec des gens, où on ne dit rien, on laisse des blancs, et les gens réagissent mal, ont l'air de dire qu'on n'est pas très intéressant et tout ça, et de voir comment on va le vivre. Parce que d'une certaine manière, ça nous prépare aussi à cette situation. Et ça permet qu'on soit un petit peu plus à l'aise la fois suivante.
Et ben c'est vrai tout ça.
Donc voilà, je ne sais pas.
C'est bien vrai. Moi, je reste bête à chaque fois, comme d'habitude.
Bête, n'exagère pas.
Mais je me demande comment tu peux rentrer comme ça dans le cerveau, finalement.
Bah, je ne rentre pas dans le cerveau.
Bah non, mais tu l'examines, le cerveau.
Voilà, j'essaye de comprendre. J'ai vu que Marine avait répondu...
Oui, on a un petit message de Marine, oui.
Eh ben alors, c'est formidable.
Ça doit être ça,
me dit-elle. Je ne sais pas, Marine, il faudrait que tu fasses l'exercice de s'imaginer que voilà, les gens vont te trouver bête et inintéressante quand tu ne parles pas. Et de te demander si tu as envie de prendre ce risque ou pas.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment vrai déjà ? Mais ça, il n'y a qu'en essayant de l'être, c'est-à-dire d'être timide et réservé avec des gens que tu ne connais pas pour voir si vraiment ils s'intéressent ou pas. Et après, si tu as envie de prendre ce risque.
Généralement, ce n'est pas gênant. Je pense non, parce que...
Mais ça dépend des gens.
Ça dépend dans quel contexte, effectivement. Oui.
Ben oui, ça dépend des gens, ça dépend du contexte. Donc, c'est un risque à prendre ou pas, mais ça, il n'y a que Marine qui peut décider ça. Ok ?
Sur le cas.
Voilà. Ok.
Voilà pour la petite réponse pour Marine.
Oui, pour Marine.
On rappelle encore une nouvelle fois le numéro de téléphone, c'est le 04 57 29 04 18.
Ouais.
T'as vu, moi je le connais par cœur.
Bravo Olivier. Bon, ça fait un petit peu
de le
plus
dire
longtemps.
En même temps.
C'est ça.
Tous les jours.
C'est vrai que téléphone, ça pourrait être sympa parce que du coup, on peut un peu plus échanger et comprendre.
C'est
ce
un peu plus interactif, on va dire.
Ouais. Ok. Il y avait une autre question qui était la question de Delphine sur laquelle je voulais revenir, qui était par rapport aux relations avec les enfants. Est-ce que tu te souviens de la question de Delphine ?
Alors moi, la question de Delphine, je ne m'en souviens pas.
C'est normal. Donc Delphine disait « Trop souvent, je me laisse emporter par mes émotions quand je suis fatiguée. Je crie pour des petits riens. Comment faire pour éviter que ça dégénère en pleurs et en cris inutiles ?»
Oui.
Alors, déjà, la première chose de base, c'est que la fatigue, c'est un amplificateur de nos émotions.
D'accord.
Et ça diminue notre capacité de contrôle.
Et oui.
Mais vas-y Olivier, tu voulais dire
non,
quelque chose.
Non, j'ai rien à dire. Je t'écoute.
C'est-à-dire que quand on est fatigué, enfin repense à une fois où tu as été fatigué, tu vois, où tu en as un peu marre et tout.
Oui, ça saoule un peu quoi. Oui,
et ça saoule. Et un petit truc sur lequel tu n'aurais peut-être pas forcément réagi en temps normal, te fait réagir.
Oui, et là on va s'énerver.
Et t'énerve beaucoup plus que en temps normal, tu vois. Donc, La première règle, du coup, à ton avis, c'est quoi ?
La maîtrise de soi, mais je sais pas, c'est pas facile, puisque quand on est vraiment fatigué, c'est très compliqué.
Oui, alors justement, ça veut dire que la première des choses, c'est peut-être d'essayer aussi de réduire la fatigue d'une manière globale, c'est-à-dire...
Ah, mais si c'est pas possible.
De prendre soin de soi, ça c'est la première des choses, parce que prendre soin des autres et prendre soin de ses enfants, ça passe aussi d'abord par prendre soin de soi. Donc, à essayer d'agir sur la fatigue. Mmh. Parfois, la fatigue a des causes physiologiques. Mmh. Donc là, il y a aussi des moyens d'y pallier. Parfois, c'est aussi parce qu'on se met beaucoup la pression, on veut faire beaucoup de choses et du coup, on se fatigue. Après, évidemment, il y a des situations où on est fatigué. Quand on a des enfants petits qui ne dorment pas la nuit,
c'est plus compliqué.
On a des cernes jusque-là.
Le matin, t'en peux plus, quoi. T'as juste envie de dormir la journée,
quoi. C'est ça. Mais tu peux pas forcément parce que tu travailles ou t'as d'autres enfants plus grands.
Donc, c'est clair.
Donc, ce qui est intéressant dans ces situations-là, c'est de savoir identifier l'escalade. C'est-à-dire, tu te souviens de la carte de fidélité dont on avait parlé ?
Oui.
Où on tamponne des cases et ça monte.
Bonne technique pour moi.
Oui.
Enfin, c'était pas mal.
Voilà. Mais du coup, ça, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi au quotidien pour savoir identifier cette escalade et de prendre conscience de notre état émotionnel à un moment donné. Donc, de réaliser aussi que c'est l'effet carte de fidélité qui est en train de jouer et d'être un petit peu indulgent avec soi-même en se disant « Ok, là, je me mets en colère aussi fort parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ok, prenons le temps de souffler. Isabelle Filioza dit pour les mamans « Allez faire pipi ».
On s'enferme dans les toilettes et
on souffle parce que c'est l'effet carte de fidélité qui nous amène à exploser. Il y avait un outil dont il me semble que j'ai parlé le mois dernier, c'était un petit carnet d'observation, c'est-à-dire quand on sent que ça commence à monter, observer ses émotions, leur niveau et se dire en quoi est-ce qu'elles sont justifiées. Ça permet pas forcément d'agir sur le moment, mais en tout cas de prendre un peu de recul et d'exploser moins fort. Et puis, à terme, de prendre du recul et d'identifier que peut-être il y a des choses qui reviennent régulièrement dans les déclencheurs. Et là, on peut agir sur les causes, quoi.
D'accord.
Et gérer différemment. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question de Delphine. Je sais pas si
elle
nous écoute.
Elle a répondu. Elle nous a marqué. Je viens de me faire un nouveau cercle d'amis près de chez moi. Et comme par magie, je ne dis plus trop de choses. Donc, ce que tu dis.
C'est Marine.
Ouais, voilà. C'est Marine. Alors, ça qui nous répond. Oui, j'ai une réponse de Marine. Oui, désolé.
Oui.
Je dis en même temps. J'en ai plein en même temps. Alors, j'en étais où? Donc, ce que tu dis, ça doit être vrai. Être trop discrète n'est peut-être pas un bon moyen de se faire des amis. Alors, je rapproche parce que c'est tout petit pour moi.
Si me mettais peut-être.
Tu vois cette configuration là.
Je vais finir. Je me mettais peut-être la pression pour réussir à me faire des amis
voilà,
chez moi.
Ça.
Voilà.
C'est ça, exactement.
Ok, super. Bon, bah super, Marine. Déjà, on est contente que. Enfin, moi, je suis contente que tu puisses te faire des amis localement. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on vient de s'installer dans un nouvel endroit.
C'est clair.
De recréer des liens. Quoi. Mmh. C'est un vrai problème. Alors. Une dernière toute petite question.
Allons-y.
Avant qu'on repasse un petit peu de musique pour se détendre. Il y avait une question qui est arrivée par email sur les bagarres entre enfants. Ouais. Alors, le problème, c'est que ce genre de question mériterait presque une émission à part entière.
Oui.
Les relations dans la fratrie et tout. Donc, je me demande d'ailleurs si dans le sondage, on va pas proposer ça comme thème.
On peut le proposer,
pour la
y a
prochaine
pas de
émission. Parce que ça demande d'abord de comprendre comment est la relation entre ces deux enfants d'une manière plus globale, d'identifier est-ce que c'est juste qu'ils savent pas gérer les conflits, ou bien c'est l'expression d'une jalousie ou d'autres choses. Et dans ce cas-là, il faut regarder la relation entre eux et la relation avec les parents de façon plus globale. Donc voilà, je ne peux pas tellement répondre plus que ça à cette question.
Bah, c'est déjà pas mal, ça permet d'avoir un petit début pour la suite la fois prochaine.
Voilà,
comme ça.
Peut-être la fois prochaine, si c'est un thème qui vous intéresse,
voilà.
Parce que je vous rappelle que c'est vous.
Exactement, ça faudra voter sur le site de Bugé Radio, comme pour le sujet d'aujourd'hui.
Voilà. Hein, exactement,
même
mais
principe.
On vous le redira à la fin de l'émission.
Voilà.
Ok. Bon, tu nous mets un petit peu de
musique,
Olivier.
On va passer une petite musique. Moi, j'ai une petite réaction de Marianne qui nous met bien le rappel sur le carnet des émotions et les déclencheurs. Voilà, avec
merci,
un petit sourire.
Merci, Marianne.
Voilà. Allez, on passe une petite musique. Il y aura Pink et une deuxième petite musique avec Air. Ce sera So Light Is Her Football sur Bugé Radio. Il est 9h22. Vous êtes avec Sandrine Donzel et c'est Entre nous. À tout de suite.
Votre radio, vos émotions. Bugé Radio.
Et nous revoilà pour parler du sujet du jour qui est donc le couple.
Le couple, le fameux couple.
Ouh, ouh, ouh. Est-ce que, alors je dis vous parce que d'habitude il y a qu'Olivier avec moi mais on vous a pas présenté.
On a un petit caméraman, tu peux te filmer d'ailleurs comme ça.
Ça après on mettra la vidéo et on verra.
Voilà.
Ah,
c'est lui. Et c'est bien évidemment Fabien qui est avec nous, qui filme l'émission.
Salut,
en direct. Voilà.
Donc voilà, il en profite lui aussi, il apprend plein de trucs pour l'avenir.
Voilà,
parce que il est très très jeune.
Voilà, c'est à l'origine le stagiaire de la radio, hein, du moment.
Ça. Celui qui fait les cafés et tout.
Exactement, mais en fait, il fait pas ça du tout. Il a même appris à faire une émission et il a fait sa première samedi. Ah. Voilà, dans Samedi Ciné.
Génial.
Sur Bugé Radio.
un futur animateur radio.
Voilà.
Alors.
Qui a commencé d'ailleurs,
c'est bien. C'est même pas un futur animateur radio, c'est un animateur radio.
Sa première.
Yes.
Voilà.
Bon, alors on va parler du couple.
Oui.
Alors le couple, c'est compliqué.
Oui, parce que c'est large. C'est tout ce qu'on veut.
Oui,
et tout ce qu'on veut pas aussi.
Mais c'est tout ce qu'on veut pas, voilà, c'est exactement
c'est pour
ça
qu'on en parle, je pense.
Mais c'est vrai qu'on est dans une période où on est un peu dans une phase de changement, j'ai l'impression, parce que, enfin, je sais pas si c'est une phase de changement ou si on se fait des idées fausses sur ce qui se passait avant. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui, de mariages en tout cas, qui se terminent par des divorces, tout le monde se dit comment est-ce qu'on fait pour faire durer un couple et tout. Alors déjà, il y a comment est-ce qu'on fait pour faire démarrer un couple.
Oui. Mais c'est pas évident non plus.
Ben non, donc ça c'est des sujets dont on va parler aussi aujourd'hui. Alors comment on fait pour démarrer un couple? Comment on fait pour le faire durer? Comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne? Enfin tu vois, il y a tout ça. Comment on gère les événements de la vie d'un couple comme l'arrivée des enfants par exemple? Parce que souvent, pas systématiquement, mais souvent on a envie d'avoir des enfants et quand on les a, ça change des choses.
Exactement.
Ça déstabilise un peu le couple et tout. Donc comment est-ce qu'on gère
un peu
ça?
Pour,
alors, j'ai déjà eu des questions, moi, sur mon blog, puisque j'avais annoncé l'émission, et j'ai deux, trois petites questions, justement, qui sont liées à l'impact de l'arrivée des enfants sur le couple. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de croyances et d'idées reçues autour du couple.
Oui.
Tu vois ça comment, un couple, toi?
Moi, c'est... Alors... C'est un peu compliqué parce qu'en fait, pour moi, le couple, ça a été le vrai couple. Hein, je parle, pas les amourettes de vacances ou de l'année.
Ouais. Ah, justement,
c'est vraiment le couple pour moi. C'est, j'ai du mal à ne pas différencier. Je vais y arriver, hein, tu vois. Le vrai couple pour moi, celui où dans lequel on s'investit totalement et puis où on vit ensemble et tout le reste, hein, tout ce qui va avec, et celui où c'est plutôt une petite amourette, on va dire, voilà, où c'est pas encore sûr, ça passe, et on est quand même libre.
Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, tu poses effectivement une question intéressante, oui. Parce que c'est quoi un couple ?
Eh ben, pour moi, alors oui, non, justement, c'est ce que je dis. Pour moi, il y a deux couples, mais moi, je préfère préciser le vrai couple. c'est le couple où on vit ensemble.
Ouais. Enfin, voilà,
où on vit ensemble, pas vraiment où on vit ensemble, mais enfin, je veux dire, où c'est sûr, quoi. Ça y est, il y a un truc qui est enclenché, quoi, qui est
ouais,
là.
Ouais, il y a quelque chose de peut-être plus important pour nous, ou voilà.
Voilà.
Comment dire ? Où on partage peut-être un quotidien et des choses comme ça.
Ben oui,
voilà.
Voilà.
Alors, moi, ça, c'est un truc que je constate, c'est que je pense qu'il n'y a pas déjà une façon d'être en couple.
Mais c'est bien possible.
C'est-à-dire que il y a des couples, alors ça va peut-être surprendre les gens, mais il y a des couples, par exemple, qui ne partagent pas forcément leur quotidien, mais qui, pour autant, ont quand même une relation.
Oui, c'est pour ça que je dis, c'est compliqué de dire ça aussi. Donc, voilà.
Ouais.
Pour moi, oui. Pour moi, c'est comme ça. Mais après, voilà, je pourrais pas vivre autrement, je le sais. Voilà, c'est pas possible. Mais c'est, effectivement, je peux faire la différence. Il y a aussi des couples qui peuvent tenir comme ça sans aucun problème et des années jusqu'à
exactement
la fin.
Et avec une relation d'excellente qualité,
c'est certainement possible,
peut-être facilité par le fait qu'ils ne partagent pas le quotidien.
Et oui, et c'est peut-être
parce
plus
que
facile de
ça
ce côté-là.
Aussi c'est un truc qui est très difficile de gérer le quotidien quand on vit ensemble tout le temps,
mais
quoi.
Ça dépend peut-être des gens, non?
Alors, moi, je pense que ça dépend surtout de la façon dont on gère la relation.
D'accord.
Y a une très belle citation de Jacques Salomé, encore faut-il que je la retrouve, je ne sais plus où je l'ai mise. Elle est tout à la fin de ce que je l'ai notée pour être sûre de ne pas l'oublier, qui dit « Ce n'est pas l'amour qui maintient ensemble deux êtres dans la durée, mais la qualité de leur relation. »
D'accord.
Je pense qu'on peut s'aimer très très fort, mais vraiment, passionnément, et ne pas arriver à vivre ensemble.
Oui. D'accord.
Parce que c'est autre
chose. Mais il faut avoir
chose.
Cette possibilité, cette capacité surtout. Parce que c'est pas donné à tout le monde non plus.
De
bah, de vivre éloigné, mais en s'aimant totalement et en vivant une vie de couple quand même. C'est compliqué pour moi.
Oui, bah oui, c'est compliqué. C'est aussi le cas des gens qui peuvent avoir des amours à distance, voilà, qui géographiquement sont éloignés, voilà, c'est aussi un autre type de relation.
Et justement, là-dessus, il y a beaucoup de jeunes au départ, moi je dis jeunes, voilà, jusqu'à 20, 25 ans, voilà, on va dire.
Ah ouais, super jeune.
Attends, je suis jeune. Non, moi ça se passe pas comme ça, mais c'est vrai que je me suis engagé vraiment il y a des années maintenant, mais pour ceux qui s'engagent réellement et puis qui vivent mais éloignés à 800 km l'un de l'autre, voire plus des fois, voire moins, même 200 km des fois c'est un peu trop éloigné justement pour se voir la semaine, pour se voir là, c'est un peu compliqué aussi. C'est vrai que c'est pas évident pour certaines personnes dans ces couples, parce qu'en fait il y a cette distance qui bloque quand même, et on le voit bien. Certaines de ces personnes sont vraiment frustrées de ça et cassent la plupart du temps le couple là-dessus, sur ce point-là, uniquement sur ce sujet, alors que les deux personnes s'aiment.
Oui, mais alors souvent les couples qui se séparent, à part si ça dure depuis très longtemps et qu'on a commencé à avoir de la rancune pour l'autre, mais j'y reviendrai plus tard, il y a souvent de l'amour quand même dans le couple. Hein.
Et enfin, c'est ça qui est dommage.
Malgré le fait qu'on en arrive à la conclusion qu'on ne peut plus vivre ensemble, mais c'est pas pour ça qu'on ne s'aime plus ou qu'on n'a pas de respect l'un pour l'autre.
C'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
Mais du coup, c'est quand même, enfin, ce que tu dis, c'est intéressant parce que dans l'amour, enfin, dans la rencontre amoureuse, on va dire, il y a plusieurs phases.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça dont j'aimerais parler un petit peu au début. La première phase, elle est le fait que déjà, on se plaît.
Oui. Il y a le côté physique, mental, tout le reste.
Bah, l'attirance, d'une manière générale, qui peut être sexuelle, intellectuelle, enfin, sur plein de plans. Est-ce que tu sais dire, toi? Pourquoi une fille te plaît? Enfin, ou un garçon d'ailleurs, je ne sais pas.
Non, c'est plutôt une fille, on va dire, pour moi, en l'occurrence. C'est vrai que ça aurait pu.
Bah, c'est un peu, hein, écoute.
Mais non, pour moi, non, c'est les filles. Et puis, c'est vrai que c'est plutôt... pour moi, c'est un tout, en fait. J'ai du mal à m'engager. Mais alors, m'engager, pour moi, je parle vraiment m'engager. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir une petite relation. Voilà, c'est soit la grosse relation, soit rien. Voilà. C'est tout ou rien. Mais je suis souvent comme ça dans la vie.
Alors, juste pour revenir sur ce que tu dis sur l'attirance, parce que ça, c'est un truc super important, parce que dans les couples, on a souvent des questions qui tournent autour du désir. Tu vois, des problèmes de désir. Et alors, c'est vrai dès le début, et c'est vrai aussi dans la vie du couple, parce que le désir, ça a des hauts et des bas.
Oui.
L'attirance, c'est comme le désir. Tu ne sais pas dire ce qui te t'attire, ce qui te plaît, ça peut être un détail.
Oui, moi c'est, ça peut être n'importe quoi.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Juste un sourire, une façon de marcher, voilà. Mais tu ne sais pas dire. C'est pour ça que la question pourquoi tu m'aimes n'a pas de sens.
Ben ça dépend, parce que si on arrive à trouver pourquoi, oui, mais c'est pas si simple que ça.
En réalité,
c'est pas simple.
En réalité, on invente des trucs parce que on ne sait pas pourquoi on aime quelqu'un.
Oui, parce que c'est une sensation, c'est voilà.
C'est ça. T'as bien retenu ce qu'on a dit la dernière
fois.
Je
sais tout,
hein,
en fait.
Hein.
Tu veux que je te remplace pour la fois prochaine?
Je vais prendre des vacances.
J'ai pas du tout.
Donc on ne sait pas pourquoi on aime
cette
quelqu'un.
Cette capacité. Oui,
voilà.
Ben non, ouais.
On aime ou on n'aime pas. Enfin, on est attiré ou on n'est pas attiré. Et après, on construit une relation ou pas. Donc déjà, il y a quand on est attiré par quelqu'un, on y va, on n'y va pas.
Oui. Il y a un doute. Il y a un doute là.
Voilà. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller alors que je sais pas comment l'autre est-ce que l'autre a envie de s'engager ou pas? Ça c'est une question par exemple. Alors on va peut-être parler un peu de stéréotypes aussi dans cette émission parce que il y a des choses intéressantes à découvrir sur à ce sujet-là. Parfois on dit notamment aux filles voilà, si le gars il est juste intéressé par tirer un coup, excusez-moi.
Oui, bah non, mais c'est comme ça que
il faut pas.
D'accord. Et pourquoi?
Bah oui, c'est pourquoi, ça c'est une bonne question.
Ça dépend des gens.
Et en plus, voilà, on peut avoir envie de juste tirer un coup. Mais même si soi-même on est plutôt dans une envie d'avoir une relation plutôt sérieuse, on peut pas savoir à l'avance.
Oui.
Bon, on a parfois des indices, donc si on a des indices, on se dit bah non, c'est bon, on laisse tomber. Mais souvent on n'a pas d'indices, et si on prend pas le risque de rentrer dans cette relation, eh ben il y a de fortes chances que du coup rien ne se passe, alors que peut-être
qu'il y a un blocage tout simple et puis qu'il n'y ait plus rien après. Ouais.
Voilà, alors que peut-être ça aurait pu déboucher sur une relation sérieuse après. Oui. Tu vois ce que je veux dire?
C'est bien probable.
Donc du coup, peut-être faut-il prendre le risque de temps en temps.
Et je pense que c'est nécessaire.
Mais
c'est nécessaire.
Tu vois, on en revient à la peur.
Mais,
comme on
c'est nécessaire,
la
mais ça dépend des gens, justement, comme on dit. Parce que là, là sur ce coup-là, si la deuxième personne n'a pas trop... Enfin, elle a peut-être envie sexuellement de la personne, mais elle sait que ça va lui faire un choc à la fin, finalement, vu que, voilà, ça peut être très compliqué à gérer,
oui,
ça, cette situation.
Du coup, c'est une décision qu'on prend aussi au coup par coup. C'est-à-dire, est-ce que... Parce que aimer, c'est potentiellement souffrir un petit peu. Quand même.
Enfin, malgré tout, oui.
Je suis bien obligée de vous le dire, l'amour, c'est pas juste, tu sais, ils se marièrent et vécurent heureux. Non, c'est pas tout à fait
ça,
comme
pas
ça
mal,
que ça,
ça
se passe.
Quand t'es petit, hein.
Ouais, mais faudrait peut-être qu'on arrête de raconter des contes de fées aux enfants, parce qu'après...
Je sais pas, parce que moi, je trouve ça bien. Moi, je suis content d'avoir vécu cette période-là.
Oui,
de latence fleur bleue.
Non, mais effectivement, c'est quand même, c'est chouette et tout ça. Par contre, ça serait quand même intéressant qu'à l'âge adulte, on redevienne un petit peu plus réaliste.
Il vaudrait mieux, je crois.
Sur la vraie vie. Parce que sinon, effectivement, on attend d'une personne qu'elle nous apporte tout, qu'elle nous dise plein de choses et que voilà. Et du coup, si on attend de l'autre qu'il nous apporte tout, déjà on attend beaucoup et on risque fort d'être déçu.
Ben oui.
Et donc de souffrir. Mais être en relation de couple, c'est potentiellement souffrir plus ou moins à un moment donné.
Et malgré tout, on est obligé.
Ben oui. Donc du coup, tu vois, si tu me dis, ben moi, voilà, cette relation, j'hésite, j'y vais pas parce que je me dis, peut-être que après, si je suis déçue, ça va me faire trop mal. Ça dépend quel est ton objectif. C'est-à-dire, si ton objectif, c'est de ne jamais souffrir, alors c'est la bonne décision.
C'est vrai.
Si ton objectif, c'est de éventuellement un jour rencontrer quelqu'un avec qui ça va le faire, alors ta décision est un petit peu plus contestable. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois. Moi, je vois. Ça y est, pas de problème.
Donc voilà, dans la vie, parfois, il faut savoir prendre des risques.
D'accord.
Bon, voilà, on a dit des choses sur un peu le démarrage d'un couple.
Et moi, j'ai un petit titre là-dessus.
Oui.
Alors, je sais pas si ça te dit quelque chose. Cette chanson-là, est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui.
Oui. C'est Tina Arena.
Oui.
Et c'est alors, je vais l'avancer un petit peu.
Vas-y.
Et c'est aimer jusqu'à l'impossible, c'est souvent le cas.
C'est ça,
c'est
ça.
Souvent le cas.
Mais se dire que c'est possible, tu vois, c'est possible. Ça qui est chouette.
Tu vois, c'est possible.
Donc, si on prend pas le risque de se dire c'est possible, si on se dit non, ça va pas marcher, donc je vais faire du mal, j'y vais pas, ben voilà, on risque pas d'avoir une relation.
Ah ben,
on se donne pas la chance.
C'est souvent ce qui se passe dans tout, d'ailleurs. Voilà.
Il y a d'autres situations où les gens, au contraire, ont parfois désespérément besoin d'avoir une relation. Et effectivement, c'est vrai que être en couple, ça apporte quand même ça.
Ah, toi, oui. Oui, on a une réaction à côté de nous, le caméraman, Fabien.
Réagit directement. C'est vrai que être en couple, c'est chouette parce que, en tout cas, c'est ce qu'on pense.
Mm-hmm. Oui, mais c'est non, ouais. Non, ah voilà, oui, avant d'être en couple, là, c'est bien. C'est T'es ça. Pas heureuse dans ta relation ou quoi ?
Non,
on va peut-être demander en ligne là.
Mon mari a mis déjà une bonne blague sur le
site. Ça a l'air de bien se passer.
Ouais. On s'amuse beaucoup, mais c'est aussi une des clés. J'y reviendrai après.
Ouais.
Donc, quand on a désespérément besoin d'être en couple. Ce qui se passe parfois, c'est que du coup, alors je reviens sur être en couple, c'est chouette, parce que effectivement, on peut partager les moments qui sont sympas. On a quelqu'un avec qui échanger, discuter. Quand ça va moins bien, on sait qu'on a quelqu'un sous la main, donc ça c'est chouette. Bon, c'est une première chose. Par contre, si on est dans l'attente désespérée de je dois être avec quelqu'un, sinon ça va pas. Ça peut être potentiellement problématique pour deux raisons. La première, c'est que le partenaire, lui, il n'a pas forcément envie d'être celui qui va répondre à tout parce que ça fait peser un poids sur ses épaules.
Automatiquement, oui.
Tu vois ?
Bah oui.
Parfois, les gens considèrent leur partenaire comme leur anxiolytique ou leur antidépresseur.
Oui. C'est souvent le cas.
Tu vois, alors, bon, ponctuellement, ça va, quoi.
Ouais.
Tu vois, de temps en temps.
Mais par contre, c'est vrai que si on arrive à se remettre en question là-dessus, c'est bien, parce que la personne aussi s'en rend compte.
Voilà.
Quand on se remet en question.
Et ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont heureux en couple sont généralement les gens qui sont heureux célibataires.
Oui.
Parce que du coup, l'autre n'est juste que la cerise sur le gâteau. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc en plus, mais où on n'a pas besoin de l'autre. Moi, j'avais écrit un petit texte sur mon blog il y a quelques temps qui s'appelait « Toi l'égoïste, je te kiffe, je t'adore. Je te love », je ne sais plus ce que j'avais mis. C'était pour dire que quand l'autre se réalise par lui-même, ou par elle-même quand c'est une femme, mais moi, je n'ai pas à être quelque chose pour l'autre.
Oui.
Je peux être moi-même. Et du coup, la relation est généralement bien meilleure.
D'accord. Mais alors moi, j'ai besoin de l'autre pour, on va dire, presque pour exister. Hein. C'est drôle, mais c'est comme ça. Je sais pas. Et voilà. C'était une petite intrusion dans l'émission.
Non, mais tu vois, ça, je peux le comprendre. C'est le cas de beaucoup de gens.
Ouais.
La question, elle est toujours, est-ce que l'autre, ça le satisfait ? Parce que si l'autre, il est OK pour jouer ce rôle-là, que ça lui met pas la pression et tout, ça va.
Ben oui.
Si l'autre, il souffre de ce rôle-là et qu'il se sent pas bien dans ce rôle-là et que, tu vois, ça lui met la pression et que ça dégrade la relation, alors ça veut dire que peut-être il faut changer quelque chose, quoi.
Oui.
Tu vois ?
Je vais demander ça. On va voir.
On va peut-être faire une nouvelle petite pause musicale.
Et on se retrouve dans moins de 10 minutes, je le précise, pour le journal.
Hein, oui, il va y avoir le journal, ouais. Alors, n'hésitez pas surtout à nous faire part de vos commentaires, de vos réactions et de vos questions.
Voilà, alors toutes les questions, vous en faites profiter tout le monde sur Facebook, si vous voulez, par téléphone, par email, voilà. Téléphone, c'est 04 57 29 04 18. Je le répète une nouvelle fois. 04 57 29 04 18. Yes. On se retrouve dans un instant. Il est 9h49. Nous sommes toujours le lundi 26 mai 2014. Et c'est Entre nous avec Sandrine Donzel sur Bugé Radio. On écoute Skip the Use et ce sera Mike Oldfield. À tout de suite.
Eh bien, re-bienvenue sur Entre nous, sur Bugé Radio. C'était C2C. Hein. Heureusement que Olivier m'a soufflé parce que je ne savais pas. Et donc maintenant, avant de parler de désir, puisque c'est une question importante dans les couples, Olivier va nous présenter le journal. Bugé
Radio. Et le journal aujourd'hui, ces électeurs qui ont fait du Front National le premier parti de France. Le vote FN a été surreprésenté chez les jeunes et dans les catégories modestes. Coca-Cola reprend l'offensive en France. L'entreprise renouvelle cet été son opération de personnalisation de bouteilles avec un choix parmi 1000 prénoms. Rencontre avec un smicard du tennis, 206e joueur mondial, Axel Michon participera à son premier rôle en Garros cette année. Barack Obama effectue une quatrième visite surprise en Afghanistan. Arrivé en fin d'après-midi dimanche, le président américain a quitté dans la nuit la base américaine de Bagram, près de Kaboul. Vous ne l'avez certainement pas raté, ces élections européennes ont mobilisé une sorte de séisme dans le contexte politique actuel. Certains avaient parié qu'une campagne morne, l'euroscepticisme latent et des électeurs désabusés conduiraient à un nouveau record d'abstention. Les Français les ont en partie détrompés en se rendant plus nombreux aux urnes dimanche qu'il y a 5 ans. Et ce léger regain de participation, rend encore plus clair le message qu'ils envoient à travers les urnes en accordant entre 25 et 26% de leur suffrage au Front National. Selon les sondages sortis des urnes rendus publics à 20h dimanche, les électeurs ont répondu massivement à l'appel de Marine Le Pen.
Et nous revoilà.
Et nous revoilà dans l'émission en direct. C'est entre nous.
Et donc.
Et on parlait d'eux.
Du couple. Et donc aussi, on va parler de désir. Alors ça tombe bien parce que Corinne a posé une question là sur la page Facebook
sur
de la
Facebook.
Radio. Où elle dit « Sandrine, tu as évoqué le manque de désir. Après 20 ans de vie de couple et 2 enfants, c'est un de mes principaux problèmes dans mon couple, mais enfin surtout le désir dissymétrique entre mon mari et moi. Ça tombe bien parce que c'est justement de ça que je voulais parler. C'est une situation extrêmement classique et courante.
Oui.
Cette histoire de dissymétrie et de demande, de désir de l'un plus que de l'autre. Et
effectivement.
C'est assez difficile à vivre des deux côtés.
Oui.
Et pour celui ou celle qui est frustré, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens, c'est plus rare, mais ça arrive aussi dans l'autre sens.
Oui.
Et pour celui ou celle qui est frustré, et pour celui ou celle qui a moins de désir, parce que, alors la frustration, on arrive assez bien à comprendre.
Oui.
Pour celui ou celle qui a moins de désir, il y a une certaine forme de culpabilité en général, de « je devrais avoir plus de désir, il faudrait que, voilà, c'est moi qui ai un problème ». C'est souvent ça. Et puis, le conjoint ou la compagne qui a plus de désir renvoie aussi souvent à l'autre que c'est de sa faute, quoi, qu'il n'a pas assez de désir et que donc, il faudrait que ça reparte un petit peu. Et alors ça, c'est un vrai problème.
Oui.
Parce que, comme on l'a vu la dernière fois, tu sais, sur les émotions, le désir, c'est une émotion, une sensation.
C'est une sensation. Oui.
Tu ne peux pas décider.
Oui, bah oui.
Avec ta tête, tu vois, de dire... Ah,
c'est compliqué.
Ah voilà, je vois ma femme, ça y est, j'ai envie. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Eh quoi qu'attends, moi ça m'arrive comme ça, oui.
Ouais, alors je pense que
je suis honnête, hein, je le dis.
C'est-à-dire,
voilà,
tu te dis pas avec ta tête, je vais avoir envie, c'est tu la vois et tu as envie.
Voilà, oui, non, c'est plutôt ça, oui, oui.
Tu vois, ça, c'est différent.
D'accord, oui.
Ce qui se passe dans le couple, c'est que comme on a à gérer tout le quotidien, c'est vrai que le quotidien, c'est un petit peu peut-être pas un tu l'amour, mais un tu le désir.
Oui.
Parce que le désir, ça suppose quand même un petit peu de mystère.
Mm-hmm.
Un petit peu de, comment dire, de séduction.
Mm-hmm.
C'est sûr que c'est plus facile de désirer quelqu'un qu'on connaît moins bien, qu'on n'a pas sous la main tout le temps.
Oui.
Tu vois, on désire des choses qui nous manquent un petit peu, quoi.
Oui, c'est ça, oui.
Quand ça ne nous manque pas, on a un peu moins de désir. Alors, du coup, les 20 ans de vie de couple fait qu'on se connaît bien et que ça peut un peu éroder le désir.
Et oui, malheureusement, oui.
Il y a tout un tas de choses à
réinventer. Une sorte
de routine. Voilà. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est un peu aussi comment ça se passe dans ce couple en particulier. Parce que, par exemple, moi, je rencontre des situations, typiquement, un couple qui vient me voir. Mm-hmm. Et madame dit, moi, j'ai pas de désir, pas du tout. Donc, ils ont déjà vu un certain nombre d'intervenants qui se sont focalisés sur madame. C'est-à-dire, monsieur a du désir, il est temps, voilà. Et madame n'a pas envie. Bon, alors on dit c'est madame qui a le problème.
Oui, on pense direct. Hein. Direct, on ne va pas chercher à comprendre.
Voilà. Donc, il faut qu'elle fasse quelque chose pour retrouver du désir. Sauf que quand on creuse un petit peu cette situation, on se rend compte qu'en fait, madame, elle dit « Mais moi, j'ai l'impression que lui, il fait l'amour pour se déstresser. »
Oui, mais oui.
C'est-à-dire, après, ça va mieux et du coup…
Et tout se passe bien.
Et tout se passe bien. Et elle se rend compte que c'est pas super valorisant. Mm-hmm. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, on peut être l'anxiolytique ou l'antidépresseur de l'autre.
Oui, c'est bien possible du coup.
Imagine-toi que ta femme, elle te saute dessus, mais juste parce qu'elle veut se déstresser.
Ouais, ça saoule quand même.
Oui, parce que du coup...
Ça ne mettrait pas de bonne humeur du coup, non ?
Ouais, tu te sens pas valorisé dans ce que tu es de façon globale, tu vois.
Oui.
Et donc, il vaut mieux que lui, il apprenne à gérer son stress d'une façon différente, plutôt que de trouver ça comme prétexte, entre guillemets.
Oui.
Après, il y a souvent ce poids de la culpabilité, c'est-à-dire tu dois avoir du désir pour moi. Et alors ça, typiquement, ça c'est un truc qui ne fonctionne pas.
C'est un vrai l'amour, ça.
Ouais, ça c'est un vrai. Tu le désires en tout cas.
D'accord, oui.
Parce que plus, imagine que je te dise, aie envie de shoot Bruxelles.
Oui, ben j'aime pas donc.
Si, il faut que tu aies envie de shoot Bruxelles. Enfin, oui, regarde, mais, c'est oui, merveilleux mais, les shoot Bruxelles.
D'accord, oui, mais c'est là en l'occurrence, j'aime pas. Alors que généralement dans le couple, ça s'est souvent fait avant, donc c'est que ça a plu. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Je sais pas si,
alors,
si
voilà,
ça peut jouer.
Ta remarque me donne une excellente occasion de démonter un mythe.
Mais je sais, mais c'est toujours mes remarques de toute façon qui sont bonnes.
Heureusement que tu es là. C'est,
heureusement.
C'est formidable.
Tu serais seule. Hein.
Ça serait triste. Comme quoi le couple, c'est.
Ah voilà.
Enfin, couple à trois. Couple
radio. Ah oui, couple à trois aujourd'hui, oui.
Donc.
Il y a Fabien, il se demande.
Fabien, il dit, ça va pas la tête. Donc, ça me donne l'occasion de démonter un mythe qui est que dans un couple, c'est pas parce qu'à un moment donné, on a eu beaucoup de désir l'un pour l'autre, que sexuellement c'était top et tout ça, que ça va durer toute la vie.
D'accord.
Ça, alors, c'est pas non plus parce qu'on est dans une phase très très down, voilà, où il n'y a plus de désir, où on n'a plus trop envie de faire l'amour, que ça va durer aussi toute la vie.
Oui, voilà, ça peut être qu'un passage.
Ça ne peut n'être qu'un passage. Donc, parfois aussi, ne pas trop se focaliser là-dessus en se disant, bah, c'est un passage, on va essayer de se retrouver d'une autre façon et enrichir notre relation d'une autre façon, c'est sympa aussi.
Alors, moi j'ai une petite remarque, une petite question de Marianne qui nous écrit sur Facebook. Faites pareil, hein, si vous voulez, facebook.com/bugeradio. Une petite question, je ne sais pas si ça a un petit peu...
Mais je, si, je t'en prie.
Alors, comment peut-on faire passer un message ou exprimer un besoin personnel sans que son compagnon le prenne comme une critique sur sa façon de faire?
Ouais, ça, c'est, alors, une ça, excellente question.
Oh là là.
C'est une excellente
ça,
question.
Ça, c'est vrai que je le prends même pour moi, des fois, là. Pour le coup... Je ne connais pas Marianne, hein.
Oui, oui.
Voilà, je précise bien.
Moi, je la connais.
Moi, non.
Alors, donc, ça revient enfin, à tout ce qui touche à la communication dans le couple et à quelque chose d'extrêmement important que Christophe André a dit, qui est on ne peut pas s'affirmer si on n'ose pas prendre le risque de d'affronter la contrariété de l'autre. Donc, effectivement, on a beau le formuler, il y a des techniques de communication non violente, communication efficace, etc., qui limitent cet impact.
D'accord.
Mais n'empêche que à un moment donné, quand on dit à l'autre « t'es en train de faire quelque chose qui ne me convient pas », il y a une forme de reproche, non pas sur la personne, mais sur ce que la personne fait.
Oui.
Et du coup, si l'autre le prend comme une critique sur sa façon de faire, le tout est de ne pas dire « mais non, enfin, c'est parce que tu prends tout mal et tout ça », parce que du coup, là, ça devient vraiment une critique, mais plutôt de dire « tiens, apparemment, ça te dérange ce que je t'ai dit, est-ce qu'on pourrait trouver une façon voilà, d'ouvrir la discussion ?» pour comprendre ce qui se passe.
Pour éventuellement comprendre, parce que c'est pas si simple,
ben,
finalement.
Oui, et parfois, ne pas comprendre, c'est pas gênant.
Et oui, c'est pas gênant, pourquoi ?
Ben, parce que je vais te donner un exemple typique de... Alors, d'une tâche, que, parce que je donne des tâches quand j'accompagne les couples, tu vois, et j'avais demandé à une personne de dire à son conjoint... C'était justement une problématique de désir, où lui était très pressant, je veux avoir... Enfin, il faut que tu aies du désir pour moi, voilà. Et parfois un peu culpabilisant. Et donc, cette personne a dit, cette femme a dit à son conjoint, bah, tu peux continuer à exiger de moi que j'ai du désir pour toi, sachant que, visiblement, en faisant ça, ça n'arrange pas les choses.
D'accord.
Mais tu peux aussi choisir de gérer cette situation autrement. C'est toi qui vois.
Et oui, mais comment autrement ? Moi, là, je suis perdu un petit peu quand
mais
même, j'avoue.
Mais là, du coup, c'est à l'autre aussi de peut-être se repositionner. Parfois, simplement, le fait de formuler les choses comme ça, ça fait un impact chez le conjoint ou la compagne et ça l'amène à voir les choses autrement. La personne en question peut se dire « Ah oui, tiens, peut-être qu'il faut aussi que je prenne un peu soin de moi. » Et du coup, tu vois, prendre soin de soi pour soi tout seul, ça crée une distance.
Mais oui.
Et ça peut créer un peu ce désir qui était absent parce que l'autre était trop collé. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui, je vois. Oui, c'est complexe, mais oui.
Mais oui, c'est très compliqué parce que ça demande à chaque fois de bien comprendre ce qui se passe dans les situations de chaque couple. Il n'y a pas de règles et de trucs où on peut dire, bah voilà, c'est comme ça que ça marche.
D'accord.
Je vois que Corinne a dit, et si on se force à avoir des rapports pour faire plaisir à son conjoint, c'est encore pire. C'est tout à fait vrai.
Alors ça, je comprends pas, par contre, tu vois.
C'est pire pour le désir.
Ah oui, pour le désir, oui. Donc, ah oui, pour la personne qui
se
pose la question. Donc pour Corinne, par exemple.
Voilà.
D'accord.
Pour la personne qui se force, c'est pire pour le désir.
Oui.
Parce que là, du coup, si je n'ai pas envie, mais je me force, bon, déjà, probablement, généralement, j'ai un peu moins de plaisir. Mais ça, c'est pas dit. Hein. On peut aussi se forcer
après,
un petit peu au début et puis après y prendre du plaisir. Par contre, si je me force à faire quelque chose, je suis en train d'accomplir un devoir.
D'accord. Mais c'est le devoir conjugal, c'est dit dans plein de choses.
Ouais, mais alors, est-ce que vraiment le sexe doit-il être un devoir ?
Non, hein, c'est... Ben, enfin, oui et non, quoi. Enfin,
est-ce
pour
que
moi,
toi,
je sais
t'as
pas.
Envie...
Je suis un peu à l'ancienne, moi.
Est-ce c'est que toi, que... t'as envie... Je vais te poser la question autrement. Mm-hmm. Est-ce que toi, Olivier, tu as envie que ta femme fasse l'amour avec toi parce qu'elle doit ? Ou parce qu'elle a envie de toi ?
Je préférerais que ce soit parce qu'elle a envie. Je préférerais, mais effectivement... voilà. Je suis à l'ancienne, comme je te dis.
Oui, ok, tout le monde
très
préférerait.
Vieux, moi.
Tu vois, l'idée, c'est... Ouais, moi, je préférerais aussi que quand mon conjoint a envie de faire l'amour avec moi, c'est parce qu'il a envie de moi.
Effectivement.
De moi, Sandrine, quoi. Ouais. Pas de moi en tant qu'antidépresseur, comme je disais tout à l'heure.
Il te met une photo de Pamela Anderson. Non, ça,
non,
je non, plaisante.
Ça va, ça va. Mais tu vois, et la question qui se pose après, c'est du coup, ok, toi, tu as des besoins que on peut entendre. Enfin, le conjoint qui est en plus en demande de désir et tout ça, il a des besoins qu'on peut parfaitement entendre et qui sont légitimes. Mm-hmm. Par contre... est-ce que on est d'accord pour se dire que l'autre va le faire par devoir et non par désir, tu vois ?
Ben oui.
Est-ce que ça veut dire qu'on exige de l'autre qu'il donne son corps ?
D'accord, oui, c'est en gros, c'est presque lui acheter son corps, quoi. C'est...
Oui, d'une certaine manière, il y a de ça.
Ou louer le corps.
Oui, c'est-à-dire tu me donnes ton corps et en échange, je te donne de l'attention. C'est un peu compliqué,
c'est
quoi.
C'est space,
Tu vois
Oui, c'est, si on le voit comme ça, c'est clair que ça paraît bizarre, quand même.
Mais à l'inverse, parce que dans les problématiques de couple, il y a très souvent cette dynamique... Alors là, c'est un peu les stéréotypes, mais je vais essayer de les démonter un petit peu, justement, sur la question du désir. Il y a très souvent ce qui se passe, c'est... Monsieur dit, moi, pour faire l'amour... Enfin, moi, pour être gentil, attentionné, etc., il faut que je fasse l'amour.
D'accord.
Tu vois, il faut que je sois satisfait sexuellement.
Oui.
Parfois. Hein. Et madame dit, moi, pour faire l'amour, il faut qu'on soit gentil et attentionné pour moi.
Oui, donc c'est compliqué quand même,
donc,
l'histoire.
Donc, voilà, lequel des deux...
A raison, finalement.
Deux fait... Mais personne n'a raison.
Personne
tout le monde a raison.
Tout le monde est personne, oui, effectivement.
Tu vois. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce que je peux changer les choses par rapport à ça ? Est-ce que c'est à moi de faire l'effort et de donner un peu plus de ma personne, entre guillemets, pour que mon mari du coup se retrouve plus attentionné avec moi? Est-ce que c'est au mari de faire l'effort d'être un peu moins exigeant sur la partie sexuelle, mais du coup d'être un peu plus attentionné? C'est un équilibre qui est difficile à trouver et qui est propre à chaque couple.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois, je comprends.
Et du coup, donner une règle générale,
c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué. Ouais, c'est mais je pense que dans la tête de celui qui a le plus de désir, ce qui est hyper important, c'est de se demander ça, c'est-à-dire pourquoi, enfin, quelle est la motivation que j'ai envie que l'autre ait pour faire l'amour avec moi ? Est-ce que c'est juste pour satisfaire mon besoin ?
Ou est-ce que c'est vraiment pour...
par désir, tu
vois ? Oui, par désir, par envie.
Par amour, par envie.
Bah
c'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus flatteur que les gens fassent l'amour par envie.
Oui, parce
que
du coup, on existe toujours. Quoi.
Voilà. Bah oui, ça veut dire qu'on est valorisé en tant que personne. Ça rejoint des thématiques qui sont assez souvent abordées. Je sais qu'il y a eu des articles super intéressants là-dessus sur le site mademoiselle.com sur le harcèlement de rue et tout ça. Parce que du coup, quand un mec aborde une fille dans la rue, lui dit qu'il la trouve jolie, voilà, voir des choses un peu plus osées parfois, bon, après, il a le droit de dire qu'une fille lui fait envie. Quand la fille dit non et qu'il insiste et salope et tout ça, excusez-moi, je suis vulgaire aujourd'hui,
mais
la question c'est quel intérêt y a-t-il à avoir des relations sexuelles avec une fille qui n'a pas envie ? C'est quoi l'intérêt, quoi ?
C'est clair. Ça paraît vraiment... ça paraît louche, ça paraît pas normal.
Bah, je sais pas si c'est pas normal, c'est juste que je me dis, ok, si c'est. Alors, dans ce cas-là, c'est une poupée gonflable, c'est pas une personne.
Oui, voilà.
Tu vois ce que je veux dire, ça veut
dire. Oui, autant aller prendre quelqu'un qui fait que ça, quoi.
Bah, oui, voilà, si c'est juste pour la relation sexuelle, y a des gens qui font ça, quoi.
c'est payant. Et des fois, ça les dérange pas. J'ai bien précisé, des fois.
Ça demanderait à être creusé. Bon, je ne sais pas si ça répond aux questions sur le désir et tout ça. C'est vraiment un truc, un point clé dans les relations et un point d'achoppement et qui peut mener à la rupture assez souvent.
Et c'est même très fréquent que c'est à cause de ça, justement. C'est vraiment une cause principale, quand même.
Oui.
Une des causes principales.
Ça me fait penser qu'il y a un truc intéressant à dire. Alors moi, dans mon jargon, j'appelle ça la ponctuation. Mais je vais t'expliquer ce que c'est.
Je veux bien savoir.
Quand on est dans une relation, quelle qu'elle soit, on voit les choses de son propre point de vue.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la situation classique, on va peut-être pas parler uniquement de désir, mais on va parler d'autres choses. Voilà, monsieur dit... Moi, quand je rentre du travail, ma femme me harcèle, elle est toujours en train de me demander de faire des trucs à la maison et tout, j'en ai marre.
Oui, ça c'est vrai.
Voilà. Donc, du coup, je rentre de plus en plus tard du boulot pour avoir la paix. D'accord. Comme ça, elle m'embête moins longtemps. Tu vois ?
Et si la femme, elle arrive... Enfin, si quand le mari, il arrive et que la femme est toute prête, toute bien habillée et tout ça, et que ça fait... Je voulais le trouver, ce petit truc-là, voilà. C'est mon petit cadeau du jour.
Top, super, Olivier. Mais, et du coup, la femme, elle, comment est-ce qu'elle voit les choses, à ton avis ?
Alors là, j'en sais rien. Non, j'en sais rien parce que moi, pour moi, je pense à moi avant tout.
Mais oui, comme tout le monde.
Oui, mais voilà, et c'est pour ça, et j'ai du mal à comprendre à ce moment-là.
Ben oui.
Je sais pas.
Et donc, madame, qu'est-ce qu'elle dit, elle ?
Elle dit qu'elle en a marre souvent.
Madame,
on
elle
fout,
dit,
on fout rien.
Voilà, comme monsieur ne fait rien à la maison, ben, dès qu'il rentre, je lui saute dessus pour lui montrer tout ce qu'il a à faire.
Ouais.
Et donc, tu vois que ce qui se met en place, c'est plus monsieur rentre tard, plus madame le harcèle, plus madame le harcèle, plus monsieur rentre tard.
Plus monsieur rentre tard, effectivement. Et puis, on se retrouve à dormir ailleurs, finalement.
Voilà, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que, généralement, pour résoudre ce type de problème, on cherche qui a commencé.
Oui, ben oui.
Ce qui est absolument contre-productif parce qu'on ne sait pas qui a commencé. C'est généralement impossible de le savoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est d'abord madame qui a commencé à être pénible du coup, monsieur s'est mis à rentrer tard, ou est-ce que monsieur a commencé à rentrer tard parce qu'il avait beaucoup de boulot et tout ça, et que du coup,
c'est
madame...
C'est difficile de le savoir, c'est vrai.
Ben, c'est quasiment impossible. Et en plus, pas forcément utile. Parce qu'à partir du moment où on a pris conscience que c'était ça qui s'était mis en place, on peut chacun faire un pas. C'est-à-dire que peut-être que monsieur va se rendre compte qu'en rentrant plus tôt, madame le harcèle moins, ou en tout cas en faisant des choses, madame le harcèle moins, et que de son côté, elle va se rendre compte que si elle le harcèle moins, peut-être qu'elle va obtenir un résultat différent. Donc c'est intéressant aussi de se poser la question dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je fais dans mon couple qui fait que l'autre se conduit de cette façon-là.
C'est à réfléchir, ça.
Hein,
c'est compliqué.
Mais c'est pas simple à identifier, parce que quand on est pris dedans, on a un peu des œillères, là.
On se bloque complètement, on se fige, on se cabre, ce que tu veux.
On freine des quatre fers, tu sais. Non, c'est moi qui ai raison.
Mais c'est ça.
Mais ça, c'est très humain, hein, dans les relations.
C'est difficile à gérer, ça, hein, par contre. C'est vrai que ça reste une émotion, justement.
N'empêche que des fois, on a un peu de culpabilité, parce qu'on se rend bien compte que peut-être on pourrait faire les choses différemment.
Et même au moment où on le fait... On se dit, punaise, je suis bête quand même. Je pourrais tout simplement tout arranger et finalement, je veux pas. Non, je veux pas.
Ou je n'y arrive pas.
Oui, voilà.
Ça, c'est une des clés aussi dans la réussite du couple, c'est d'éviter de rejeter toute la responsabilité sur l'autre. L'autre a une part de responsabilité, mais nous en avons une aussi. Et donc, avant de dire, l'autre ne fait pas comme il faut, l'autre n'a pas assez de désir, l'autre a trop de désir, l'autre ne gère pas assez le quotidien, l'autre est trop exigeant, l'autre est ceci, l'autre est cela... de se poser la question aussi de la part de responsabilité que nous, on a dans cette relation. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire différemment ? Parce que changer l'autre, ça, c'est pas forcément possible.
C'est clair.
Donc,
changer notre relation, c'est possible, la relation entre les deux.
C'est ça.
Mais changer l'autre, c'est pas possible.
Ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est très difficile. Parfois, on arrive à provoquer des changements.
C'est possible. Mais est-ce que ça tient vraiment, après ?
Ça dépend.
Tu vois, je te pose des questions drôles.
Moi, je pense que ça peut tenir. Je me souviens d'une situation de couple comme ça que j'avais accompagnée. J'avais accompagné juste madame.
D'accord.
Parce que moi, j'ai une approche assez particulière et j'ai pas forcément besoin d'accompagner les deux membres du couple.
D'accord.
Et donc, madame en question, elle me disait, j'essaye désespérément de faire comprendre à mon mari que j'ai besoin de lui. Je lui dis, je lui répète. Donc, elle avait fait plein de formations à la communication et tout ça. Elle était au top sur la communication non violente, parler de ses besoins, la gestion de conflits et tout. Et ça faisait 10 ans qu'elle faisait ça et ça marchait pas.
D'accord.
Elle me dit, toujours pas, c'est moi qui prends tout en charge à la maison.
Et c'est toujours très compliqué,
boulot,
là.
Rien que je lui demande de sortir la poubelle, il me dit, tu me fais chier, tu vois.
Ah oui.
Donc, ça commençait à devenir assez violent pour elle. Et nous sommes ensemble partis du constat que, elle disait, et que, visiblement, lui, soit il ne pouvait pas, soit il ne voulait pas.
Et souvent, c'est « je ne veux pas », quoi.
Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas, je n'ai jamais su, et ça n'a que peu d'importance. Simplement, je lui ai proposé à cette dame, plutôt que de demander l'aide de son mari, de le soir l'accueillir en se servant un verre d'apéro, en lui servant un verre d'apéro en disant on a eu tous les deux une dure journée, on s'installe sur le canapé, on se pose tranquille.
Mais alors c'est pas souvent simple à mettre en situation, ça c'est
parce qu'on n'ose pas. Ben,
oui, voilà, non parce qu'on a peut-être pas cette façon de faire d'habitude et puis cette façon de vivre. Et c'est vrai que ça paraît louche, ça paraît bizarre quand, enfin, je sais pas.
Si on ne change rien.
Moi, j'arrive à la maison, elle me prépare un truc comme ça. Je suis content, mais je trouverais ça bizarre. Enfin,
oui.
Tu vois. Pour moi, c'est louche.
Oui, mais justement, ça cache quelque chose. Ça va t'amener à te remettre en question et à changer. Si tu ne changes rien dans la façon dont tu te comportes, il y a peu de chances que l'autre change son comportement.
C'est clair.
Tu vois ce que je veux dire ?
C'est clair aussi.
Et là, en l'occurrence, le monsieur a été très content d'avoir l'apéro servi. Et au bout d'une quinzaine de jours de ce traitement, il a été beaucoup plus attentionné avec sa femme. Il a pris plus de jours de congé pour passer du temps avec elle et tout ça.
D'accord.
Donc,
bon,
tu vois,
ça a quand même...
Ouais, voilà. Mais simplement en arrêtant de
nouveau
vouloir
look.
Dire. Parce qu'il y a une illusion qui est la communication va résoudre tous les problèmes.
Ouais.
C'est pas forcément vrai.
D'accord.
Donc voilà.
Okay.
Je te propose qu'on en reste là-dessus, que tu nous passes une petite page.
Allez, on va passer à une musique. Juste pour te remercier de ton émission, là. Je suis très content, moi aussi.
Je vais aller voir ça.
Pas de questions, mais simplement un grand bravo, Sandrine. C'est une belle émission, très intéressante.
Super.
Voilà, et c'est Cyrielle, dédicacée par Cyrielle.
Merci, voilà. Cyrielle. Et après la pause musicale, on parlera de l'arrivée des enfants dans le couple, parce que ça, c'est aussi
là,
un
c'est plus compliqué.
Gros
et
déstabilisateur.
Le pendant et après l'arrivée, enfin, une fois que les enfants sont arrivés,
c'est ça.
D'accord, et ben alors ça m'intéresse aussi. Allez, on passe à la musique avec Jeannette. Ce sera Porqué Tevas sur Bugey Radio et Michel Sardou en chantant. Voilà, c'est un petit peu ancien.
Votre radio, Bugey Radio.
Et c'était Roxane Police sur Bugey Radio. Il est 10h30 et c'est l'émission Entre nous avec Sandrine Donzel. De retour, Sandrine.
Oui.
Comment ça va, Sandrine, depuis tout à l'heure?
Depuis tout à l'heure,
ça va bien.
Toujours aussi bien.
On a
ouais.
des petits messages en direct
ouais,
qui nous arrivent.
Et le temps passe à une vitesse incroyable. Il est déjà 10h30.
Et il est déjà 10h30. Tu t'imagines, c'est quand même incroyable.
Un truc de dingue.
Voilà.
Alors, j'avais dit que je parlais de l'impact de l'arrivée des enfants sur le couple. Je voulais juste revenir deux secondes sur la question de Corinne par rapport au désir, parce qu'elle nous a donné quelques. Précision. Et elle disait, je pensais surtout au fait que sa passivité ne m'aide pas à avoir envie, le désir ça se suscite aussi, non. Alors ça, effectivement je pense que Corinne a mis le doigt sur quelque chose d'hyper important, c'est que effectivement le désir ne se décide pas et ne s'exige pas, c'est-à-dire que moi en tant que conjoint ou que compagne de quelqu'un je ne peux pas dire, tu dois avoir du désir pour moi. Par contre moi je peux faire des choses pour essayer de faire en sorte que l'autre et envie de moi. Je mets un contexte, après l'autre, il a envie ou pas envie, ça, c'est sa liberté. S'il n'y a pas de liberté, il n'y aura pas de désir.
Oui.
Alors, mettre le contexte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bah, prendre soin de soi, être séduisant, comme je disais tout à l'heure, créer un peu de mystère, un peu de distance, faire des petits trucs sympathiques, on va au resto, on se fait une petite sortie ensemble, où on va être bien. Mais, alors,
ça permet d'avoir des petits moments qui... comment on peut appeler ça précoce, non
De complicité, oui, voilà, tu vois. Il y a une excellente conférence de Esther Perel. Je crois que c'est dans cette conférence-là où elle dit, en fait, les préliminaires de l'acte sexuel suivant commencent à partir du moment où on a terminé le précédent.
D'accord.
Tu viens de finir de faire l'amour et tu commences les préliminaires pour le suivant.
Et c'est là que ça commence, au sens
de la relation, de la façon dont... C'est-à-dire, si tu es dans cette idée-là que, finalement, l'autre n'est jamais acquis, ni en termes de relation, ni en termes de désir. Parce que si tu considères l'autre comme étant acquis...
C'est foutu.
Bah, c'est pas hyper désirable. J'ai une collègue...
Et pour moi, ça, c'est un peu un blocage, c'est vrai.
Mais t'as moins envie, tu vois. Et j'ai une collègue qui utilise une image que j'adore. Elle parle du cocker enamouré.
D'Éthique Berdon.
Le cocker, tu vois, le cocker, le chien avec les grandes oreilles et les yeux comme ça, là. Je vais le faire pour la caméra.
Voilà.
Tu vois, je le fais bien, hein. Vous l'avez pas vu, mais vous le verrez sur la vidéo.
Ah, ils l'ont peut-être vu par la webcam,
Ah, mais je sais pas s'ils regardent la webcam, ça bah,
s'ils sont sur le site, ils la voient.
Oh mon Dieu, c'est horrible. Donc, tout ça pour dire que le cocker est enamouré. Quand mon conjoint ou ma compagne est dans cette attitude par rapport à moi, c'est-à-dire que, ah là là, je suis merveilleuse ou merveilleux, je suis géniale. C'est difficile d'avoir du désir, c'est chouette, enfin c'est valorisant d'une certaine manière, mais c'est difficile d'avoir du désir pour une personne comme ça qui nous est juste entièrement acquise et qu'on n'a plus à séduire. Tu vois ce que je veux
dire ? Oui, je vois.
Donc, si vous avez envie que votre conjoint ait du désir pour vous, créez un petit peu de distance,
Un faux lien.
C'est
faux lien.
Ouais. Voilà. Il y a des tas de croyances aussi, par exemple, par rapport au désir. Il y a des gens qui se disent, oui, mais on ne fait l'amour que si on a envie tous les deux en même temps, au même moment. Ça, c'est des conneries.
D'accord.
Si je peux me faire exprimer ainsi. Esther Perel le dit aussi très bien. Elle dit, par exemple, si vous avez un amant ou une maîtresse, comme par hasard, vous vous voyez à heure fixe, voilà, le mercredi de 5 à 7, comme par hasard, le mercredi de 5 à 7, vous avez envie.
Ouais. Tu vois, oui, c'est vrai ça.
C'est pas.
Oui, parce que ça laisse du temps. On imagine, on se met le truc dans la tête.
On attend.
Et puis voilà.
Mais ça veut dire qu'il y a un désir qui existe déjà avant, tu vois.
D'accord.
Alors, j'aimerais bien qu'on parle justement de l'impact.
Enfin, je dis ça, c'est pas en connaissance de cause. Hein. Je le précise bien. Il y a une petite femme qui m'écoute. Hein, donc...
Mais alors, tu sais, ça aussi, mais j'y reviendrai à la fin parce qu'avec ma biblio, j'ai aussi quelques bouquins et quelques ressources web qui peuvent parfois surprendre. Sur le fait que l'infidélité, alors ça c'est un point de vue personnel, mais que c'est pas forcément la preuve qu'on ne s'aime pas ou qu'il y a un problème dans le couple.
D'accord.
Parce que justement.
Oui, enfin oui, oui, d'accord. Et là c'est alors là moi je pars de Gida, non, je pars à côté.
Je sais que je suis provoque quand je dis ça, mais
un petit peu.
Si mon conjoint a des besoins sexuels et que moi je ne suis pas prête.
On n'arrive pas à
suivre. Bah voilà, parce que mon désir n'est pas au même niveau, que mon besoin n'est pas au même niveau.
Oui.
Pourquoi est-ce que moi, j'exigerais de lui qu'il fasse une croix sur ses besoins-là,
c'est pas bête.
Alors que par ailleurs, je ne vais pas, moi, faire une croix sur mes besoins d'attention et de communication et de trucs comme ça.
Oui, oui. C'est...
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois. Après, oui, par contre, ça peut...
Voilà, donc c'est une question qui se pose. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Je dis juste que, voilà, on peut aussi se poser la question dans ces termes-là et se dire, ben, peut-être que c'est une façon de retrouver un certain équilibre dans un couple. Une façon, pas la façon.
C'est pas la façon, voilà,
c'est
pour tout le monde.
C'est chaque couple de décider, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question dans ces termes-là. J'y reviendrai avec la Bible.
Et toi, ça te vexerait pas, ça?
Non, à moi, perso, non. C'est pour ça que je disais, c'est aussi un avis personnel. Parce que, justement, je préfère que cette question du sexe ne soit pas un enjeu dans le couple et ne vienne pas dégrader notre relation.
D'accord, oh là, ouais.
Tu vois?
Vous êtes un couple libéré, apparemment.
Mais, c'est pas pour ça qu'on passe à l'acte.
Ouais, non, non, ouais.
Tu vois la différence.
Ouais. Mais ça permet de l'imaginer et du coup, peut-être, on se sent mieux.
Moi, c'est au moins, je me sens libre de dire non.
D'accord. Voilà.
Ce qui me permet d'avoir plus de désir.
Oui. Et par contre, oui, mais ton mari, comment lui réagit dans
mais
ce cas-là?
C'est à lui qu'il faut demander.
Ben, on va lui demander. Ça ne te dérange pas, hein?
Allô, Hervé, tu veux bien?
Voilà. Allô, oui, comment ça va?
Donc, tu vois, ça, c'est un truc personnel. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant de se poser la question dans ces termes. Bon, on en vient à l'arrivée des enfants.
Alors,
bien,
l'arrivée des enfants.
Tu veux pas qu'on en parle?
Ben, si, moi, je veux qu'on en parle, justement.
Tiens.
Moi, ma femme attend un enfant.
Ben, voilà. Ouais. Donc, c'est votre premier.
C'est notre premier.
Mon Dieu.
Il est désiré depuis des années.
Mon Dieu. Et on t'a prévenu que ça allait être terrible.
Et on m'a prévenu que ça allait pas être terrible, que ça allait être merveilleux.
Mon Dieu.
Ben, ça allait être terrible certains moments, mais c'est comme le couple, finalement.
Alors... Oui, alors c'est pas terrible en soi, enfin ça peut être terrible en soi, c'est juste que
ça peut être terrible hein, quand même.
C'est juste que l'arrivée d'un enfant a un impact sur le couple qui est extrêmement important. Un couple, c'est quand même la rencontre de deux personnes différentes. C'est déjà pas facile de se concilier les uns avec les autres. Mais alors, quand on rajoute un enfant, quand l'enfant...
C'est un peu plus compliqué.
Ben oui, parce que quand l'enfant arrive, on se transforme chacun individuellement. C'est-à-dire que ben, pour la femme, il y a des transformations physiques. Le corps qu'on a après, c'est pas le corps qu'on avait avant. Et sur le plan intime et sur le plan physique d'une manière générale. Donc ça fait un certain nombre de chamboulements physiques, émotionnels, intellectuels, psychologiques. Pour le papa aussi.
Alors oui, non, pardon.
Non, mais vas-y.
Moi, le seul truc qui me gêne, alors le changement physique, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est beau, une femme enceinte, voilà, tout ça. Ça me plaît. Mais par contre, le truc qui me choque, enfin, qui me paraît bizarre, et c'est vrai que je peux comprendre qu'elle soit un petit peu choquée quand moi je le suis, c'est quand ça bouge. Tu sais, moi je suis content, mais c'est ça, à l'intérieur ça bouge. Donc, je suis content, j'aime bien. Ça me fait penser
c'est
à un alien, quoi.
Alien, voilà, c'est ça.
Elle a compris que. Mais je le pensais comme ça, mais bon.
Au sens propre, alien, alien en anglais,
c'est ce
que ça
déjà
veut dire.
Non, je sais pas.
C'est l'étranger.
Ben voilà, c'est un étranger.
Mais pas toi. Donc...
Mais si, il est à moi quand même.
Oui, mais c'est une autre personne.
Ouais.
Il est né de. Il va
c'est pas
de,
bête.
Tu
c'est
vois,
pas bête.
Voilà.
C'est pas
donc
bête,
quelque part, il y a quand même.
C'est un petit truc, qui bouge, quoi.
Bref, tout ça pour dire que l'arrivée d'un bébé dans un couple, déjà les premiers mois, on dort pas ou très peu ou très mal. La journée, bah, ça pleure, un bébé, c'est normal, mais c'est pénible. Je sais que, alors la plupart du temps, c'est les mamans qui s'en occupent quand ils sont petits. Donc du coup, il y a une phase où, je vais parler au nom de nous, les femmes, en tout cas pour certaines, quand t'as passé ta journée avec un bébé qui est greffé sur toi toute la journée, quand t'arrives le soir, tu vois, tu rêverais que personne ne t'approche à moins de 3 mètres.
Oui, ben oui.
Donc, quand ton mari arrive et aimerait bien faire quelques câlins, si tu veux.
Oui, on a envie de souffler, quoi. D'accord. Voilà. Enfin, donc, vous avez envie de souffler, oui.
Oui, oui, mais c'est logique. Alors après, je dis, c'est nous, les femmes, mais si c'est le papa qui reste à la maison, qui s'occupe du bébé et tout ça, il est possible que ce soit l'inverse, tu vois. Il y a des études qui montrent ça, que c'est celui qui est en contact avec l'enfant qui souffre de ça et qui a besoin un peu le soir de respirer, quoi.
De plus, oui.
Ben oui. Donc, donc ça veut dire qu'il y a une phase difficile aussi où on
est un peu obligé. Une transition à un moment où il faut,
Ouais. Et puis, mathématiquement, on a moins de temps. Pour le couple.
Ben oui.
On a moins de temps pour soi individuellement et on a moins de temps pour le couple.
À 11h10 exactement, tu peux, après c'est fini. Voilà, t'as 5 minutes.
11h10, c'est 11h15 et hop.
Il y a 3 minutes.
C'est ça.
Je crois qu'on a mis un petit truc, c'est le bébé qui danse. Je crois que c'est ça.
Je ne sais pas.
Non, c'est même pas ça.
C'est toi qui mets la musique, Olivier.
Je me suis peut-être trompé.
Donc, tout ça pour dire que, effectivement, l'arrivée d'un enfant fait que, avant, on avait un couple. Maintenant, on a un autre couple.
Eh oui.
Donc, ça veut dire qu'il y a une phase de se reséduire, se retrouver, et que cette phase est parfois déstabilisante. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Moi, souvent, ce que je dis aux couples que j'accompagne, qui ont des enfants en bas âge, c'est que, tu vois, les 3 premières années d'un enfant, pour un couple, c'est la machine à laver, tu sais.
Oui.
Essorage, cycle rapide. Ah.
Mais oui.
Et donc, c'est aussi avoir conscience de ça, tu vois, avant que l'enfant arrive.
Oui.
C'était une question qu'on m'avait posée sur mon blog sur est-ce que c'est possible de sauver son couple malgré l'arrivée d'un bébé ou quelque chose comme ça. Oui, c'est possible, mais c'est vrai que ça veut dire que chacun va devoir un peu attendre, mettre du sien et attendre que les choses aillent mieux.
D'accord.
Et l'arrivée d'un enfant, ça a un autre impact sur le couple, qui est que ça multiplie les occasions d'être en désaccord et en conflit.
D'accord.
Parce qu'on a des visions de l'éducation qui sont différentes.
Oui.
On est deux personnes différentes. Même si des fois on est d'accord sur les principes, on peut parfois être en désaccord sur les façons de faire concrètes. Oui. Parfois, on est en désaccord sur les façons de faire concrètes. C'est encore pire. Enfin, tu vois, même si on est en accord sur le... Non, c'est l'inverse que je voulais dire. On est en désaccord sur les principes, mais les façons de faire concrètes se rencontrent. Donc là, ça va, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, on est d'accord sur les principes, mais quand on est au quotidien avec l'enfant, il y en a toujours un qui est plus strict que l'autre. Comment est-ce qu'on gère ça? Ça veut dire que si on avait déjà du mal à gérer les conflits avant... ça va pas arranger.
Ça va pas arranger les choses, d'accord.
Ça va même être pire.
Ça peut pas du tout arranger, c'est-à-dire que ça peut pas faire l'effet inverse, finalement.
Ça me paraît un peu compliqué.
Plus compliqué, d'accord.
Ça me paraît... Alors, c'est possible si, justement, on arrive à se retrouver sur des questions d'éducation et la façon... Et parfois, on peut aussi porter un regard différent sur son conjoint ou sur sa compagne parce qu'on la voyait d'une certaine façon. Et quand on le ou la voit en relation avec l'enfant, ça change la vision qu'on avait de cette personne.
Et le timing également, puisqu'il y a un timing à respecter généralement quand il y a l'enfant.
Oui,
du coup,
Ben oui, mais tu vois, du coup, ça rend moins disponible.
Oui,
Et puis, souvent, l'enfant devient... Alors, souvent, ce que disent les papas... Alors, encore une fois, c'est un peu un cliché, mais souvent, ce que disent les papas, c'est qu'ils sont délaissés.
Oui.
Tu vois, oui...
Ils se sentent délaissés,
Ma femme fait passer les enfants avant moi.
Et ils le sont,
moi.
Dans un sens.
Mais oui.
Oui.
Mathématiquement, c'est une question de temps, déjà. Ouais. Mais, alors... Ça veut dire aussi que du coup, ça vaut le coup d'avoir une discussion de couple pour se dire, ok, toi, tu te sens délaissé, indépendamment de l'enfant, sachant que l'enfant est là, de toute façon, on va pas pouvoir l'enlever, il va falloir faire avec.
Oui.
De quoi toi, tu aurais besoin pour que les choses se passent mieux pour toi? Parce que c'est pas forcément une question de l'enfant, c'est juste que le papa ou la maman a besoin peut-être que on lui accorde un tout petit peu d'attention, qu'on prenne. Parfois, il suffit de toutes petites choses, prendre le café ensemble une fois de temps en temps, faire garder l'enfant, peut-être une petite soirée une fois par mois, ou parfois même simplement à la maison. Les enfants sont couchés. On se prend un petit temps pour se faire un plateau de télé, pour se retrouver, tu vois.
Un petit truc perso, un perso couple. En couple,
Et après, il y a les vrais désaccords sur l'éducation elle-même. Parce que quand l'un a des idées, des principes éducatifs, mm-hmm. tu vois, par exemple, plutôt sur l'accueil des émotions de l'enfant, mm-hmm. sur l'accompagnement, et que l'autre a une vision plus classique de l'éducation, de
ouais, voilà, il faut strict, faire comme c'est ça, plus c'est plus strict et tout ça,
on peut arriver à en avoir des conflits assez violents parce mm-hmm. que on a l'impression que c'est pas juste pour les enfants mm-hmm. et qu'on veut défendre les enfants d'une certaine manière.
D'accord.
Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, ce que j'invite souvent les couples à faire, c'est déjà que chacun assume ses responsabilités sur la façon dont il mène la relation.
D'accord.
Je te donne un exemple concret. C'est une maman qui était venue me voir, qui est plutôt un peu, elle, très stricte,
oui.
et son mari beaucoup plus cool.
Oui.
Parfois, c'est l'inverse. Hein. C'est, voilà, c'est oui. une question de sexe.
Mais c'est vrai que moi, je pense que ça va être presque le contraire, mais oui. Mais quoi que j'en sais rien.
Tu ne sais
fait.
Pas.
Je
en
sais
fait,
pas.
Tu,
je
ne peux, sais pas. Tu ne peux pas savoir comment tu vas être parent avant d'être parent.
Oui, non, c'est clair.
C'est ça qui
clair.
Est problématique.
Bah,
ouais. Enfin...
Oui, oui, parce que du coup, on se pose plein de questions avant. Hein. C'est terrible, hein, même. Oui.
Donc du coup, voilà, cette maman était beaucoup plus stricte, ce papa est beaucoup plus cool.
Oui.
Et la maman dit, oui, mais le soir, comme il est plus cool, du coup, le coucher, ça dure des plombes, moi, j'en ai marre, mm-hmm. j'ai envie d'avoir ma soirée.
D'accord.
Ok, super, c'est tout à fait légitime.
Oui.
Rien à dire là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle intervient.
Mm-hmm.
Elle dit, maintenant, ça suffit, allez vous coucher, tout
oui.
ça. Le papa se sent remis en cause dans sa façon de faire.
Mm-hmm.
Il trouve ça pas juste pour les enfants, il
oui.
trouve que c'est un peu violent pour les enfants.
Oui.
Et du coup, ça devient un problème de couple.
Mm-hmm.
Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est que, par exemple, cette maman dise, ok, tu veux gérer à ta façon, moi, mm-hmm. j'ai envie d'avoir ma soirée pour moi.
Mm-hmm.
Donc, tu peux gérer à ta façon. Il est possible que, du coup, le papa, à un moment donné, se rende compte qu'effectivement, c'est un petit peu pénible,
ouais,
tu
bah
vois,
oui.
de gérer comme ça.
Bah oui.
Et que peut-être, il a besoin d'être un peu plus cadrant. Parce que si j'interviens trop tôt, trop vite, je prive l'autre de faire mm-hmm. cette expérience et de trouver une adaptation.
Oui.
Et en plus, ça devient une opposition dans le couple. Mm-hmm. Et comme personne ne veut avoir tort...
Eh ben, tout le monde a
avoir tort, voilà. Je risque de renforcer l'autre dans sa
oui.
position.
Bah oui.
Tu vois, et c'est comme ça aussi que parfois, on crée des problèmes de couple qu'on n'aurait mm-hmm. peut-être pas forcément eu, parce qu'on essaye de montrer à l'autre qu'il a tort et qu'il devrait
voilà,
faire
oui.
autrement.
Voilà, ah bah oui, montrer de toute façon à l'autre qu'il a tort, c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile déjà, on va dire, pour l'autre, oui, c'est
oui.
très compliqué. Et pour la situation, bah alors le couple est complètement détaché à ce moment-là. C'est...
Il y a,
ça, je le reconnais.
Une citation de je ne sais plus qui, mais je retrouverai, qui dit
oui.
« Parfois, il faut choisir entre avoir raison et avoir des amis
mm-hmm. ». Ah d'accord, oui, c'est pas mal.
Parce qu'effectivement, si je veux trop avoir
ouais.
raison, je risque d'envoyer le message
exactement,
à l'autre que lui,
ouais.
il a tort et que donc il n'est pas
faut
bien.
Faut savoir être indulgent, tout simplement.
Ben, indulgent, je ne sais pas, mais en tout cas, laisser à l'autre la possibilité de gérer les choses à sa mm-hmm. façon, peut-être que du coup, ça va lui permettre de changer son mode
ouais.
de comportement, tu vois, et de se rendre compte qu'effectivement, il pourrait peut-être faire autrement.
Et nous, par exemple, dans notre cas, dans mon cas personnel,
oui.
On est très, comment dire, bon, on est très liés tous les deux.
Ouais.
Hein, ça, voilà, ça, tu l'avais compris,
ouais.
je pense, la dernière
ouais.
fois aussi. Mais par contre, on a une sorte d'affrontement physique et moral, mais quasi quotidien. Tout simplement parce que ben, on a un très fort caractère tous les deux et on est super têtus tous les deux. Voilà. Donc, ça arrange pas les choses. Et là, c'est vrai que
est-ce
lors
que
de l'accouchement,
un...
je pense que ça va commencer à...
Alors, déjà, moi, j'ai pas d'idée... Enfin, plus j'accompagne des couples, moins je sais comment on fait pour que ça fonctionne bien.
Ah,
que
je croyais autre chose.
Non,
oui.
ce que je sais, c'est que chacun a trouvé son équilibre mm-hmm. personnel.
Oui.
Donc, ça veut dire, par exemple, que si ça vous convient bien...
Mm-hmm.
Et
oui.
que vous trouvez votre équilibre comme ça...
Bah, c'est vrai que d'un côté, si après ça change, ça va nous paraître bizarre.
Ouais,
donc c'est vrai.
Donc tu vois,
ouais.
c'est pas, il y a pas un mode de fonctionnement, c'est-à-dire un couple idéal où mm-hmm. il faudrait qu'on soit,
ah bah oui, non,
on se mette d'accord, qu'on soit jamais
pour
en
nous
conflit.
Ce serait pas idéal, donc oui.
Voilà, si, ok, vous avez un petit affrontement, enfin un affrontement, ça monte un peu dans les tours, et puis
ah
après
ouais.
vous trouvez un
mais c'est
moyen.
C'est quasiment quotidiennement quoi.
Ouais.
C'est, voilà.
Est-ce que c'est un problème pour vous?
Non, on adore, on aime bien
tu
d'ailleurs.
Vois
oui, non,
bon,
c'est vrai.
Bah, ok, ne changez pas un truc qui vous convient.
Ben oui.
Tu vois, c'est ça le
c'est
truc.
C'est rigolo. Ouais.
Parce qu'à toujours vouloir faire mieux, parfois on fait moins bien. Hein.
C'est possible, c'est vrai.
Tu vois?
J'ai une petite
oui.
dédicace pour toi encore.
Ah.
C'est incroyable, t'es aimé, hein, t'es adoré,
je
t'es apprécié complètement.
Dédicace
à Sandrine, merci pour cette émission intéressante qui aide à aborder les différents problèmes sous des angles peu habituels. Et c'est Delphine qui nous envoie
ah,
ça.
Merci
voilà.
Delphine.
Ça fait plaisir. Hein,
oui, ça fait toujours plaisir.
Ça. Mais moi, par contre, non, je, moi, je, personne m'aime, hein, moi. C'est... J'ai pas eu de message, hein. Moi, je suis jaloux, là.
Ah ouais, je suis jaloux. En plus, vous avez vu sa photo aujourd'hui.
Oh, bah oui, en plus, je me suis montré aujourd'hui.
Tu sais, on n'a pas parlé de jalousie, tu vois.
Ah oui, mais pourtant, ça en fait partie.
Oui, ça pourrait être, enfin, ça peut être la jalousie par rapport à un enfant où on estime que l'autre, l'enfant est privilégié par rapport à soi.
Est-ce que tu penses pas que ce sera bien de faire une émission un de ces jours sur la jalousie?
Mais pourquoi pas?
On pourra peut-être poser la question dans différents sujets proposés.
C'est à vous, derrière vos ordinateurs, de nous le dire.
C'est clair.
Bon, tu sais qu'il est déjà 10h49.
Il est déjà 10h49.
Je suis désespérée.
Très, très bien. Pourquoi, t'avais plein de choses encore à dire?
Bah ouais, j'ai des millions de trucs à dire.
Mais vas-y, c'est pas grave, vas-y, dis-moi.
Bon, non, il y a un truc que je voulais dire. Je sais pas si ça a répondu en tout cas aux questions sur les désaccords sur l'éducation des enfants et tout ça.
On va voir un petit peu.
Bah, c'était des questions qui m'avaient été posées sur le blog. Donc je sais pas si la personne qui m'avait posé ces questions écoute ou pas et si ça la satisfait. Si ça ne vous satisfait pas, vous envoyez vos messages après l'émission et on y répondra au début de la prochaine émission qui aura lieu.
Comme ce qu'on a fait aujourd'hui.
30 juin, voilà, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok ?
D'accord.
On va faire comme ça. Parce que la chose dont j'avais envie de parler, ou alors j'en parle avec la biblio, mais c'est un peu les stéréotypes sur la façon de se comporter. C'est-à-dire, une femme va plutôt avoir moins de désir et s'occuper plus des enfants et plus aimer ça. Et un homme...
Laisser faire la femme.
Voilà, va plus laisser faire la femme, va avoir plus de désir sexuel, va plus s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur de la maison et tout ça.
Et c'est vrai que c'est de vrais stéréotypes. Ouais.
Ce sont des stéréotypes qui n'ont pas forcément une vérité biologique, contrairement à ce qu'on croit. Je suis en train de lire un livre qui est extrêmement intéressant, dont je reparlerai dans la bibliothèque, qui s'appelle « Ce que veulent les femmes » de Daniel Bergner.
Et je crois que j'ai vu quelque chose comme ça, oui.
Tiens, ça y est, t'as un message.
J'ai un message. Oh, tu es au top, Olivier. Et en plus, c'est la mienne.
Donc, « Ce que veulent les femmes », c'est un livre qui parle du désir sexuel féminin.
Oui.
Et ils montrent, par exemple, une expérience extrêmement intéressante. Ils font remplir des questionnaires à des hommes et à des femmes, séparément, de façon théoriquement anonyme, dans différentes conditions. Les premières conditions, c'est tu remplis le questionnaire et tu dois le donner à un étudiant qui t'attend à la sortie de la salle. Donc, potentiellement, il peut lire tes réponses.
D'accord.
Tu remplis le même questionnaire, mais tu le mets sous enveloppe cachetée. Donc, potentiellement, il ne peut pas lire tes réponses et personne ne sait qui a répondu. Et la dernière condition, c'est tu as un détecteur de mensonges sur la tête.
Ah oui,
et
donc, on sait si tu lis pas potentiel. Des
mensonges. Donc, c'est un questionnaire qui porte sur les pratiques sexuelles, les envies et tout ça. Et on compare les réponses des hommes et des femmes dans les différentes situations. Ce qui se passe, c'est que les hommes répondent pareil dans les trois situations.
D'accord.
Peu importe, ils s'en foutent un peu du regard des autres.
Oui.
Les femmes ne répondent pas pareil.
D'accord.
Dans la situation où...
Les femmes sont manipulatrices, toujours dit.
Olivier, nous allons nous fâcher. Dans la situation où elles ont le détecteur de mensonges sur la tête, elles répondent quasiment comme les hommes. Pareil, sur la masturbation, sur leurs pratiques sexuelles et tout ça.
D'accord.
Dans la situation où elles doivent remettre le questionnaire à quelqu'un qui peut potentiellement lire les réponses, elles répondent complètement différemment. Donc, par exemple, aucune ne dit qu'elle se masturbe.
D'accord.
Elles ne disent pas un certain nombre de pratiques ou d'envies.
Est-ce que les hommes le disent vraiment, ça?
Ou
est-ce qu'en fait, ils disent pas
«
non, c'est... Ah non, non, pas du tout. » Et puis, en fait, ils disent « non, non, pas du tout » dans tout.
Au contraire, ils sont, a priori, alors on peut supposer qu'ils sont assez honnêtes sur le... Voilà. Et donc, pour les femmes, il y a une vraie différence entre ce qu'elles disent... Est-ce qu'elles font vraiment ?
D'accord.
Et alors, il y a une autre expérience qui est racontée dans ce bouquin. On met des capteurs au niveau du sexe, sur les hommes et sur les femmes, donc pour mesurer l'excitation réelle.
Comment ça marche, ça ? C'est quoi, ce système ?
L'afflux sanguin.
Ah ouais.
Bon, pour les hommes, c'est facile à mesurer, excuse-moi.
Ouais. En même temps, il suffit de mettre une caméra, c'est tout.
Voilà, c'est ça. Mais là, il y a vraiment des mesures, tu vois, de l'afflux sanguin, et pour les femmes, du coup, de la lubrification et des trucs comme ça.
D'accord.
Ok.
Détecteur d'humidité.
Enfin, je sais pas exactement quels sont les capteurs, mais voilà. Et on passe des vidéos sexuelles, donc des vidéos porno, aux gens dans ces conditions-là. Et on leur demande, on enregistre les mesures et on leur demande de dire si la scène qu'ils sont en train de voir les excite ou pas. Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions. Donc on passe des scènes.
Et on voit si c'est du vrai, du pas vrai.
Voilà, exactement. D'accord. Ce sont des scènes assez variées.
Okay.
Il y a un homme avec une femme, il y a des femmes seules, des hommes seuls qui se masturbent, il y a des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, il y a même des singes qui font l'amour.
D'accord.
Et donc, ce qui se passe, c'est que les hommes...
ce qui ne m'intéresserait pas vraiment, mais oui,
mais voilà, en gros, que ce soit homme ou femme, les singes qui font l'amour ne déclenchent pas vraiment d'excitation sexuelle. Voilà.
C'est plutôt rigolo.
Toutes les autres scènes déclenchent une certaine excitation sexuelle.
D'accord.
Et ce que les hommes ressentent en disant « oui, ça, ça m'excite mm-hmm. » ou « non, ça, ça m'excite pas
oui. »
est assez corrélé. C'est-à-dire ce qu'ils disent et ce qu'on mesure mm-hmm. réellement au niveau de leur sexe, ça correspond.
C'est bien le terme. Ça donne l'image directe.
Ben oui. Par contre, pour les femmes,
oui.
entre ce qu'elles disent
oui.
et ce qu'on mesure au niveau de leur sexe, il y a un écart.
D'accord.
Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'elles n'osent pas se l'avouer ?
Excuse-moi.
Non, ça y est, on parle de sexe, il est mort, il est en train de penser au...
C'était la mesure, et puis après, chez la femme, l'écart. Bon, écoute... Je suis un homme, voilà.
Voilà,
je
c'est ça. Hop, dès qu'on parle de sexe,
tu vois, là,
les
stéréotypes, je pense que là, tu peux l'avoir direct, t'as même pas besoin de sondage. Hein.
Donc, mais tout ça pour dire que, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les femmes ne sont pas conscientes
oui.
que ça les excite
oui.
ou n'osent pas dire que ça les excite. Ça, je ne sais pas, tu vois. C'est...
D'accord.
Mais du coup, c'est intéressant parce que ce bouquin montre que le désir sexuel chez la femme ou chez l'homme, mmh. il est quasiment identique.
D'accord, oui.
Il y a un autre truc, par exemple, est-ce que tu savais qu'il y a moins de 100 ans, les femmes étaient réputées pour avoir beaucoup plus de désirs et de besoins sexuels que les hommes.
J'ai entendu parler de ça. Ben oui, j'ai donné les infos et dans les infos, il y avait ça. Je l'ai vu il y a deux jours. Je ne savais pas du tout.
Tu vois ?
Et pour moi, c'était même très étonnant d'ailleurs.
Ben oui. Et tu vois, c'est comme quoi la société
oui.
Renverse un peu
ben oui.
ces choses-là. Ok.
C'est d'accord.
Bon.
J'ai juste une petite remarque de Stéphanie qui
oui.
nous met. Vous pouvez mettre le nom de l'écrivain du livre Ce
oui.
que veulent les femmes.
Alors, je vais faire la biblio du coup maintenant. Si
ah, ben voilà.
Si ça ne te dérange
mais
pas. Comme
c'est
ça, je vais redire, je vais répondre à la question de Stéphanie.
La biblio.
Et puis, vous retrouverez et sur la page Facebook
oui.
de l'émission, enfin l'événement de l'émission sur la page Facebook de la radio, mais
oui.
je le remettrai. Comme j'avais fait la dernière fois, tu sais, toutes
d'accord,
les illustrations,
oui.
la biblio
problème.
Et tout ça. Et puis, je ferai un article sur mon blog aussi
oui.
qui correspond à ça.
Okay.
Donc, dans la biblio, les bouquins que je voulais recommander. Donc,
oui.
j'en profite pour passer un petit appel.
Oui.
Si un libraire nous
intéressé.
Écoute, est intéressé, pour sponsoriser cette rubrique, il est le bienvenu et il peut
voilà.
contacter Bugey Radio.
Voilà,
hein
on donne le numéro de téléphone
eh oui.
direct de la radio, 04 57 29 04 18, ou si vous voulez le sponsoriser réellement, donc avec de vraies finances,
voilà.
donc dans ce cas-là, vous pouvez appeler le 06 26 48 40 77.
Ok, bon, alors la biblio, les bouquins qui... Alors, il y a très peu de bouquins qui ont trouvé grâce à mes yeux par rapport au couple...
D'accord.
Parce que souvent, ils ont toujours l'air de dire qu'il y a une façon idéale.
D'accord, il y a une morale qui n'est pas totalement honnête.
Et ça m'embête un petit
okay.
peu. Donc, le livre dont je viens juste de parler, « Ce que veulent les femmes », c'est Daniel Bergner, B-E-R-G-N-E-R. Donc, c'est vraiment un bouquin autour du désir sexuel féminin et qui démonte un peu tous ces stéréotypes, qui montre aussi comment c'était par le passé, tout ça. Donc,
mm-hmm.
c'est vraiment super intéressant.
Ça, c'est pas mal.
Il y a aussi Esther Perel. Alors ça, dans les ressources web aussi, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TED. TED.
Ah, pas du tout, moi.
Mais vous pouvez chercher. Elle a donné une conférence. Alors, elle est en anglais, mais elle est sous-titrée. On peut la sous-titrer. C'est le secret du désir dans une relation à long terme.
D'accord.
The secret to desire in a long-term relationship.
Okay.
Où elle parle de choses extrêmement intéressantes comme l'idée de voilà, se donner des rendez-vous
oui.
de 5 à 7, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence érotique, faire vivre le désir dans le couple ».
D'accord.
Esther Perel. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que comme c'est une problématique très courante, ça vaut le coup de s'y pencher.
D'accord.
Alors, il y a un autre bouquin que tu ne vas pas du tout aimer.
Ah, pourquoi ? C'est « Comment tromper sa femme ».
Deux autres bouquins.
Ou son mari.
Qui s'appellent « Bienheureuse infidélité » de Paul Salomon et mm-hmm. « Guide des amours pluriels pour une écologie amoureuse » de Françoise Saint-Père.
D'accord.
Donc, je ne dis pas que c'est la façon... Mais je dis que ça pose des questions
tu veux
intéressantes.
M'induire
Non. Je dis juste que ça pose des questions intéressantes.
Ouais.
Dans la même idée, tu as un blog que j'adore,
oui.
mais vraiment que j'adore, okay. qui s'appelle « Les fesses de la crémière ».
J'ai lu quelques articles.
Voilà, mais que j'ai dû partager, c'est
oui,
pour ça que,
c'est pour
les
ça que je les ai lus.
Alors, il a des idées, c'est un monsieur qui écrit ça, c'est un homme
oui.
qui écrit ça. Il a des idées surprenantes et assez non conventionnelles sur le couple,
mm-hmm.
mais je trouve, encore une fois, que ça pose des questions qui qui sont vraiment passionnantes.
D'accord.
Okay. Et puis pour finir, il y a quand même l'outil de la communication non-violente qui est quand même super intéressant pour justement pouvoir aborder les choses dans le couple sans forcément rentrer dans des conflits frontaux, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Parce que quand l'autre fait quelque chose ou demande quelque chose, il a une bonne raison de le faire.
Bah oui.
Donc voilà. Ce bouquin, c'est un tout petit bouquin qui coûte 4,90€ ou 5,90€. Il s'appelle « La communication non-violente au quotidien » d'Andreas Bazu et Liane Faust. C'est un tout petit bouquin.
Ben ça vaut le coup. Il faut le marquer aussi.
Voilà. Et ça peut être intéressant parce que ça donne des pistes pour justement peut-être communiquer un petit peu différemment sans être dans l'accusation, le « tu devrais faire comme ci, tu devrais
communiquer comme mieux pour vivre mieux.
C'est ça. Ça peut aider. Ce n'est pas la solution miracle, mais ça peut quand même aider et apporter un certain nombre de choses.
Ok, voilà. Eh ben c'était super, ça c'est une bonne biblio. Si vous voulez toutes les informations sur cette biblio donnée aujourd'hui par Sandrine en direct dans Entre nous, c'est pas difficile, vous allez sur bugeradio.fr dans la rubrique à droite, voilà, vous avez la petite image de Sandrine Donzel et puis vous cliquez dessus et là il y a sa page, il y aura toutes les infos dessus et sur Facebook.
Et je le remettrai sur la page de la radio.
Exactement, sur la page Buget Radio de Facebook.
Ouais. Bon, mais c'est déjà terminé.
C'est déjà terminé. Alors comment tu penses ça? Ça s'est bien passé la deuxième?
Ben ouais, mais j'ai encore des millions de trucs à dire que je n'ai pas dit. On n'a pas parlé de la rupture. Tiens, dans la biblio, c'est un bouquin dont je voulais parler. C'est Le couple brisé de la rupture à la reconstruction de soi de Christophe Fauré. Parce que dans le couple, il y a la vie du couple, mais il y a aussi la rupture et le fait que c'est difficile à vivre. Et comment est-ce qu'on fait pour aller vers un nouveau couple quand il y a eu une rupture. Donc voilà.
Mais ça, tu voudras qu'on en parle un petit peu en début d'émission
S'il y a des questions là-dessus, on verra aussi en fonction des questions qui seront posées entre deux. Okay. On se retrouve le 30 juin.
Le 30 juin.
De 9h à 11h.
De 9h à 11h, voilà, comme d'habitude.
On n'a pas encore choisi le thème, donc vous pouvez envoyer vos suggestions. Moi, j'avais des choses autour de la relation avec les enfants, soit la relation par enfant, soit les jalousies dans la fratrie. Maintenant, si vous avez envie d'aborder d'autres sujets, j'ai plein d'idées. On parlait de régime tout à l'heure avant de prendre l'antenne.
Oui, on en a un petit peu parlé du régime.
On peut, voilà, de tout ce qui est l'alimentation, le rapport au corps. On peut parler d'autres choses autour du couple, peut-être plus précisément. Enfin, voilà, à vous.
Eh ben, on va essayer de lancer quelques sujets vu les réactions qu'on aura dans quelques instants et d'ici les prochaines heures. On mettra tout ça sur le sondage de bugeradio.fr.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Sandrine.
Merci.
On se retrouve le 30 juin et j'espère que ça t'a plu et qu'on va pouvoir continuer ça longtemps.
Ouais, j'espère aussi. C'est aussi aux auditeurs qu'il faut demander ça. Donc
J'ai l'impression que ça leur plaît. On remercie aussi Christelle qui a mis Messi, Olivier. On aime bien t'écouter aussi.
Bon, merci à vous tous.
Voilà, merci
à
toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Au mois prochain. Voilà, je vais y arriver. Ah, t'as vu, je suis fatigué aujourd'hui complètement.
En pleine forme, Olivier.
C'est vrai, j'en peux plus là. Il est 11h. On retourne en musique avec Mika et Francis Cabrel dans quelques instants. Bonne matinée, bonne fin de matinée et bon appétit à tout à l'heure.